Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 121, ici Richard Delhomme. Souvenez-vous de l'épisode 119, Baptistine démarrait sa minute de solitude ainsi.
Alors voilà, cette minute de solitude, je la dédie à Géraldine, qui est actuellement sur son vélo, qui a déjà fait 1400 ou 1500 km, quelque chose comme ça, sur 2100, je pense que c'est...
Eh bien, figurez-vous que la fameuse Géraldine est rentrée de Suède, de retour en France, et franchement, elle est pas contente du tout, du tout. Géraldine, c'est un sacré numéro, car se lancer dans la traversée de la Suède, sur une course donc sans vraiment d'expérience, enfin ça c'est ce qu'elle dit, il faut être super courageuse ou totalement inconsciente, la frontière entre les deux étant assez mince. Cela dit, je soupçonne Géraldine de minimiser son périple, car une première étape à 330 km, ben voilà, on sait tous ce que cela veut dire. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo, désormais les épisodes sont filmés et disponibles sur YouTube. Le lien est dans la description de cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper, car je vais envoyer de la vidéo prochainement, notamment le teaser de l'Ultra Gravel du Ventoux, ou une présentation des sacoches de la série Racing de chez Apidura. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Rendez-vous en description de l'épisode pour nous suivre sur les réseaux et découvrir les épisodes précédents. Et sans plus attendre, donc, Géraldine Venturuzzo.
Eh bien, je crois bien que ça marche. Et là, tu m'entends toujours ?
Là, c'est bon, j'entends toujours.
Eh bien, génial. Eh bien, apparemment, Géraldine, hein, parce que c'est ton prénom que je ne connaissais pas, mais qui s'affiche à l'écran, eh bien, bonjour. Et
bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation, surtout que là tu rentres tout juste de Suède, c'est ça ?
C'est ça,
ouais.
C'est ça. Je suis rentrée mardi du coup, donc il y a trois jours même.
Tu étais partie combien de temps ? Tu es partie combien de temps ?
Alors je suis partie le 28 juin, donc le temps de rejoindre le Grand Nord, donc il m'a fallu 3 jours quasiment pour monter... pour monter tout au nord, et après donc j'ai fait la course qui m'a pris 9 jours en tout. Donc la course qui a eu lieu du 1er juillet au 10 juillet.
Et quand tu dis 3 jours pour atteindre le Grand Nord, ça veut dire que tu y es allé par un transport quelconque ou tu y es allé en vélo ?
Alors non, en fait, enfin j'ai pris les transports, donc il a fallu d'abord prendre l'avion jusqu'à Stockholm en embarquant le vélo. Mmh. Ensuite de Stockholm, il fallait prendre un train de nuit, donc le train de nuit qui dure 12 heures jusqu'à une première étape, qui est quasiment tout au nord mais pas encore tout à fait, et après il a encore fallu prendre un autre train pour arriver au point de départ. Donc en fait le départ de la course avait lieu pas très loin de Kiruna, enfin c'est la ville la plus connue là-bas, et qui situe à la frontière norvégienne, donc qui est à peu près à 300 km au-dessus du cercle polaire, donc c'est vraiment tout en haut.
Je pense que là il est l'heure de se présenter parce que finalement moi je ne te connais que par Twitter et par Baptistine qui t'a dédié sa minute.
Par contre j'ai des petits le son qui bug un petit peu.
Ouais.
Je sais pas si c'est de mon côté.
Certainement que les torts sont partagés malheureusement. Là tant que je n'ai pas la fibre encore, ça va être un petit peu compliqué même si je suis en partage de connexion. M'entends-tu ?
Que ça frise un petit peu de temps en temps, donc...
Ouais. Qui es-tu ? Voilà, moi je vais faire très simple. Qui es-tu ? Voilà. D'où viens-tu ? Qui es-tu ?
Alors, je pense que je vais peut-être commencer par raconter mon parcours avec le vélo. Je pense que ça va être...
Ouais.
Il y a plein d'angles. En fait, il y a plein de choses différentes. Donc, je vais commencer par ça. Je pense que ça va être pour m'introduire par rapport à ça. Donc, en fait... Moi, j'ai commencé à rentrer dans le monde du vélo il y a à peu près 10 ans. Donc j'étais pas du tout sportive, je faisais pas du tout de sport, je détestais ça, enfin c'était un cauchemar. Et en fait, il y a 10 ans, en fait, j'étais encore étudiante et je m'ennuyais au mois de juillet. J'avais regardé le Tour de France et en fait, j'avais vu que à vélo, il parcourait plein de paysages super beaux. Et donc je m'étais dit, bon bah si comme j'avais rien à faire avant de reprendre les études à la rentrée, je m'étais dit, bah tiens, si j'allais pas prendre mon vélo pour voyager. Et donc j'ai commencé comme ça à faire un voyage à vélo, donc j'avais fait la Loire à vélo il y a 10 ans, donc c'était vraiment tout nouveau, enfin c'était pas encore très, très connu. Et donc j'ai fait mon premier voyage comme ça, en partant d'Orléans et en allant jusqu'à Saint-Nazaire, sachant que j'étais pas du tout sportive, que voilà, je découvrais vraiment ça, et je m'étais lancée dans ça, donc j'avais acheté des sacoches, enfin j'avais acheté vraiment le minimum pour partir, j'étais partie beaucoup trop lourd, enfin vraiment l'erreur que font tous les débutants, et donc j'ai fait mon premier voyage comme ça, et après les années qui ont suivi, ben, j'ai continué comme ça à voyager quasiment chaque année, à faire un voyage, donc j'ai fait la Via Rona. Je suis partie aussi en Écosse, j'ai pas mal fait la côte atlantique, enfin voilà, j'ai un peu parcouru toute la France de long en large. Et après, donc il y a eu un moment aussi où c'était vers 2014, où là par contre j'ai commencé vraiment à faire du sport, donc je me suis mise à la course à pied. Donc là je me suis vraiment mise sérieusement, où j'ai commencé à faire des 10 km, des semis, puis marathon, et puis voilà. Et à un moment, donc j'ai une blessure qui est arrivée. Et là, du coup, je me suis mise au triathlon. Parce que je m'étais dit, voilà, t'aimes bien nager, t'aimes bien faire du vélo, tu cours. Bon, triathlon. Et donc, j'ai commencé à faire du triathlon. Donc, c'était vers 2017. Et après, en 2018, donc là, je me suis inscrite à l'Ironman de Nice. Donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à faire du vélo route, mais vraiment sérieusement. Parce qu'il a fallu, voilà, que je m'achète. Enfin, je me suis acheté mon premier vélo route. J'ai commencé à découvrir ce que c'était de faire des sorties le dimanche, de se faire 3, 4, 5 heures de vélo vraiment, vraiment sérieusement. Et donc voilà, donc 2018, donc j'ai fait l'Ironman de Nice que j'ai réussi à finir. Après 6 mois vraiment d'entraînement très intensif. Donc voilà, et puis après, plus ça avance et plus le vélo finalement prend de la place, parce que c'est quasiment la discipline que je préfère le plus, donc je continue toujours à faire des voyages, je continue beaucoup à m'entraîner et à beaucoup rouler, et donc du coup c'est comme ça que ça m'a amené à m'inscrire à cette épreuve d'ultra en Suède qui a eu lieu au mois de juillet, donc voilà, c'est à peu près mon parcours sportif pour en arriver à là.
Facile,
ça s'est fait progressivement en fait, ça s'est fait petit à petit, enfin c'est vrai que comme ça a l'air énorme, mais c'est ce que je dis, c'est que j'ai commencé par tout petit, puis après au fur et à mesure ça s'est rajouté et on arrive par des choses qui me paraissent, enfin voilà, si on m'avait dit il y a 10 ans que t'allais faire 2000 km en Suède, jamais j'aurais cru, enfin je me suis dit mais non.
Donc aujourd'hui tu as 30 ans ou tu en as 40, tu as quel âge?
Là j'ai 31.
Alors, ce qui me fait beaucoup rire dans ce que tu me racontes, c'est que tu me dis « je n'étais pas sportive, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et à un moment donné, je me suis mis au sport et là, j'ai commencé à faire de la course à pied. C'est plutôt drôle quand même, parce que du coup, tu voyageais, tu as fait plein de trucs super à vélo. Mais c'est au moment où tu t'es mise à courir, ou en tout cas que tu as eu l'impression de fournir un effort plus important, on dirait, que là tu as eu l'impression de faire vraiment du sport alors que tu avais déjà fait plein de trucs.
Parce qu'après, je distingue aussi l'effort physique et le sport. Enfin, pour moi, je me dis que pour moi, ce qui marque la différence, c'est que j'ai commencé à faire des courses. C'est vraiment où là je me prépare à des compétitions, où je commence à me dire, je me donne tel objectif. C'est là où je considère aussi que c'est. Après, on a chacun notre définition.
Alors.
Mais il y en a, c'est juste bouger. Moi, c'est vraiment à partir du moment où je commence à me dire, bon, voilà, tu t'inscris à telle épreuve, tu essaies de donner le meilleur, de maximiser tes performances. C'est là que je me dis que ça rentre dans une autre dimension.
Alors, tu as entièrement raison. Parce que légalement, en tout cas d'un point de vue juridique, il y a une différence entre un sport et une activité physique. Et un sport, c'est quelque chose qui est régi par une fédération internationale. Tandis qu'une activité physique, on peut on peut faire de la marche. Bon, il y a de la compétition de marche, bien entendu, mais c'est comme tu dis, c'est pas la même dimension. Et à partir du moment où il y a une dimension d'épreuve et tout ça régi par des fédés, machin, on parle de sport. C'est pour ça que le ping-pong, par exemple, est un sport. que la pétanque est un sport également, tout simplement.
Ah,
ah ça, mince.
J'ai encore l'image qui se frise un petit peu. Bon. Non, je pense que ça va aller.
Voilà, donc là, sachez-le, vous pouvez faire du triathlon ou de la pétanque. C'est le même niveau de sport, c'est le même niveau d'intensité entre faire un Ironman et faire une finale de pétanque à Marseille. C'est pareil. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ultra? Parce que là, finalement, c'est un parcours de quelqu'un qui ne faisait pas de sport et qui s'est un petit peu révélé là-dedans. Mais qu'est-ce qui t'a quand même amené vers l'ultra? Parce que là encore, c'est un niveau au-dessus. Se dire, je voyage, je fais la Loire, l'Écosse ou un Ironman, c'est super. Mmh. Mais se dire, je vais aller faire 2000 km en Suède, dans une terre barbare et en plus 2000 km en autonomie, c'est en... parce que l'Ironman, c'est dur, bien sûr, mais on peut passer à... c'est l'exact opposé de l'autonomie. C'est balisé, t'as juste à suivre les flèches, il y a des ravitaux monstrueux, on peut pas se tromper. À moins d'avoir une grosse panne de courant, sur un Ironman, on peut pas se tromper. Sur 2000 km, les erreurs sont à tous les coins de rue. Enfin, s'il y a des rues. Hein.
Alors, en fait, c'est un gros hasard. Je prévoyais pas du tout de faire cette épreuve-là. Et en fait, c'était un soir de novembre, pendant le confinement. J'étais chez moi. Donc forcément, on n'avait rien à faire, donc je traînais beaucoup sur Internet. Et en fait, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je rêvais de voir le soleil de minuit, au moment de l'été, forcément au mois de juin, que je rêvais juste de voir ça. Donc je m'étais dit, bon bah tiens, comme là, on n'a pas grand-chose à faire et que j'ai besoin d'un petit peu rêver et de m'évader, je vais préparer un voyage à vélo. Donc au début, c'était juste ça. Et donc, mois de novembre, je commence un petit peu à regarder les routes, à regarder comment ça peut être possible, est-ce qu'il y a des circuits qui existent. Et en fait, en regardant les routes, je m'étais dit, bah tiens, je vais regarder les segments sur Strava pour voir un peu par où les gens passent. Donc je suis allé sur Strava, j'ai regardé les segments, et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de segments qui étaient marqués « Zverige Tampot ». Je m'étais dit, c'est quoi ça,
Zverige Tampot ? C'est du suédois, non ?
Donc du coup, voilà, c'est suédois. Et donc, je regarde sur Internet ce que c'est, et là, je vois qu'il y a un ultra. Donc en fait, je vois un ultra qui part du nord de la Suède et qui descend tout au sud. Et donc il fait 2100 km, qui a lieu au mois de juillet. Et en fait, au moment où j'ai regardé, il restait plus que 2 places pour s'inscrire. Donc du coup, je vois ça, je me dis, bah, ça correspond à peu près à l'itinéraire que je veux faire. Ça peut être un bon défi pour m'occuper pendant le confinement, pour garder la motivation, pour garder la forme. Et pour, voilà, comme tous les triathlons sont annulés, toutes les courses sont annulées, bah, du coup, moi, j'avais pas grand-chose à faire. Et donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut être un bon challenge de, au lieu de faire ton voyage à vélo toute seule, bah, de partir dans ça, parce que comme ça, tu auras aussi un encadrement, tu ne seras pas complètement toute seule. Et donc après, 2 heures après, j'étais inscrite. Donc j'ai vraiment découvert ça au hasard, je voulais pas du tout, c'était pas du tout dans mon programme de faire de l'ultracyclisme. Le plus long que j'avais fait, c'était au mois de septembre, où j'avais fait une épreuve qui reliait le Mont-Saint-Michel à la Tour Eiffel. L'ultra des Trois Merveilles, donc c'était 330 km sur une journée, donc ça c'était vraiment le maximum que j'avais fait et je trouvais ça déjà beaucoup. Et donc du coup, j'ai vu cette épreuve qui s'appelait la Zverige Tampot, ça m'a tout de suite parlé et du coup je me suis inscrite comme ça sur un coup de tête sans forcément me dire que c'était énorme. Je m'étais dit, allez, pourquoi pas, ça peut être un bon défi justement pendant le confinement pour me donner un cap aussi, pour garder le moral aussi, parce que ça permet aussi de s'évader, de rêver. À la fin tout ça, puis en plus je m'étais dit bon, en juillet le Covid ça sera fini, on n'aura plus tous ces soucis. Bon, c'est pas vraiment le cas.
Ah, allez,
j'étais un petit peu optimiste.
Ouais, là-dessus t'as été visionnaire quand même, hein. Je trouve que voilà. Bravo. Non. Là-dessus rien à dire. Est-ce que le lendemain de ton inscription tu t'es réveillé en te disant, alors attends, sans les lunettes, tous les deux on est pareil, tu t'es réveillé comme ça?
Ça coupe encore.
Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit à une course. À une course de 2000 km en Suède.
La minute d'après, enfin à partir du moment où j'ai rentré le numéro de carte bleue qui a eu le paiement, je m'étais dit, ça y est, je suis embarqué dans un truc, il n'y a plus qu'à. Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, mais 2000 km, tu te rends compte quand même que c'est faire 240 km par jour. Je crois que des sorties de plus de 200 km, j'ai dû en faire, il y a eu l'ultra que j'avais fait, mais sinon, ouais. J'en faisais pas tant que ça, enfin... Et là, je m'étais dit, il va falloir que je fasse ça pendant 8-9 jours. Et en plus, dans un pays étranger, en plus, très loin, en plus, c'était...
Avec une langue.
C'est vrai que là, je me suis dit, ah oui, quand même.
Donc tu t'es réveillé un petit peu, même pas, tu t'es réveillé quand tu as eu mis ton numéro de carte bancaire et appuyé sur valider. Là, tu as eu quelques sueurs froides et tu t'es dit...
Ah, ça frise encore un peu.
Ouais. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'Ultra des Trois Merveilles? Parce que c'est une magnifique épreuve très bien organisée par l'ami Xavier. L'ami Xavier Penel de Caen, est excellent organisateur également de la Normandie 4 route et off-road. Tu notes qu'on parle, maintenant on parle de off-road, hein, parce que au début c'était gravel, mais c'est tellement pas gravel qu'en fait maintenant on parle de off-road, tellement c'est engagé et boueux. Mais peu importe, c'est génial quand même. Est-ce que tu peux me revenir un petit peu sur cette expérience, s'il te plaît? On reviendra sur la Suède ensuite.
Alors déjà, je sais même plus comment je m'étais inscrite.
Par internet ou un truc
je crois
comme
ça. Pareil. En fait, je fonctionne un peu en coup de tête. Hein. Donc,
pourquoi peut-être?
Je sais que cet été, j'avais pas mal roulé. Parce que j'avais fait un grand voyage. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas tenter de me tester sur cette distance. Et donc du coup, après moi, la spécificité aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que donc la course, c'était Mont-Saint-Michel jusqu'à Paris. Sauf que moi, l'aller, parce que moi, j'habite dans la région parisienne. L'aller, je l'ai fait aussi à vélo. Parce que du coup, j'ai fait... en fait, je suis parti de chez moi, donc moi, j'habite à Versailles. J'ai fait l'aller en deux jours. Donc j'avais déjà fait deux fois 150 km l'avant-veille et la veille. Et le jour de la course, du coup, j'ai fait le trajet dans l'autre sens. Et donc c'était la première fois vraiment que j'enchaînais autant de kilomètres sur trois jours, parce que du coup au total ça m'a fait quasiment 600 kilomètres. Et donc l'aller qui s'était très bien passé parce que enfin voilà il faisait beau, j'avais vent dans le dos donc ça avançait tout seul presque. Donc voilà, et puis après le jour de la course, donc je me rappelle c'était départ à 4h du matin. Donc on s'était retrouvé avec un déluge, ça je m'en souviendrai. Ce qui faisait nuit, on avait eu un déluge, le vent de face toute la journée. Et je me souviens de 4h à 7h du matin, il pleuvait comme je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'étais dit, je ne vais jamais arriver à Paris, ça va être compliqué. Et donc le départ de la course a eu lieu comme ça. Pendant 3 heures, il a beaucoup plu. Et puis après, le temps s'est amélioré. Bon, on a eu 20 phases tout le long, mais finalement, la course s'est bien passée. Enfin, les paysages étaient super sympas, même si je les avais déjà vus dans l'autre sens. Mais vraiment une bonne expérience. Enfin, c'était la... Enfin, voilà, j'ai pas eu de gros coups de mou. Tout s'est bien passé. J'ai eu quelques crevaisons. C'est bon. Mais sinon, ouais, une super expérience. Enfin, vraiment une belle course... belle course à faire, et puis même, quand je suis arrivé à Paris, c'était beaucoup d'émotions, enfin pourtant, j'habite pas très loin, donc je connais très bien Paris, mais c'est vrai que quand on voit la Tour Eiffel qui arrive, on commence à se dire, tiens, on a réussi à relier le Mont-Saint-Michel à la Tour Eiffel en une fois, enfin voilà, c'est beaucoup de fierté, c'était super génial, et c'est là que je me suis dit, oui, c'est vrai que ça me plaît, enfin les épreuves comme ça, avec beaucoup de kilomètres, longue distance, ça... Vraiment, moi, ça me plaît.
Pourquoi ça te plaît?
Déjà, de base, je pense que j'ai naturellement... je suis très endurante, en fait. Enfin, je sais que c'est vers là qu'il faut que je me tourne. Les épreuves courtes, j'aime pas ça. Enfin, les épreuves vraiment intensives... enfin, courtes, mais vraiment très, très intensives, je déteste ça. Je sais que naturellement, je suis beaucoup plus... J'ai plus de facilité dans tout ce qui est endurance. Enfin, c'est pour ça aussi que rapidement, j'ai fait un Ironman et... que tout de suite je me suis tournée vers le long. Et même, c'est tout un état d'esprit, c'est qu'on passe par différentes phases, c'est tout l'aspect gestion de soi, gestion de son effort, le fait de ne pas partir trop vite, de se connaître aussi, parce qu'il faut se connaître pour ne pas partir trop vite, pour savoir bien s'alimenter, bien se gérer, bien boire, il y a tous ces aspects-là à gérer. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que faire ça sur des longues distances, c'est déjà le... faire des longues distances, c'est aussi le fait que ça devient presque de la méditation, en fait. C'est que j'ai mon cerveau qui s'éteint, je pense à rien, mon cerveau est vide, je profite juste du moment présent, je suis là, et puis le temps passe, et puis les kilomètres défilent. Enfin, c'est vraiment un état particulier que j'adore, que ce soit en course à pied ou à vélo. C'est vraiment des états très particuliers qu'on atteint, et c'est vraiment ce que j'aime.
Le côté méditation, Tu l'avais préparé, tu l'avais anticipé, et c'est quelque chose que tu recherchais, ou c'est quelque chose que tu as découvert, ce côté un petit peu méditation active?
Ah non, c'est quelque chose que j'ai découvert. Non, parce que j'ai tout ouvert. Parce que même avant, je me disais, mais comment c'est possible de faire des heures et des heures sans s'ennuyer, sans ça? Et en fait, non, je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Enfin, je l'avais déjà découvert un petit peu quand je faisais des voyages. Mais c'est vrai que là, encore plus, où vraiment, on voit pas le temps. Enfin, moi, quand je suis dans des épreuves comme ça, je vois pas le temps passer. C'est comme si j'étais hors du temps, j'étais dans... Enfin, c'est vraiment un état très particulier, en fait. J'ai des pensées qui passent, comme ça. Des fois, je pense à des choses très profondes. Des fois, je pense à des choses très futiles. Enfin, c'est vraiment très particulier comme état, donc... Non, je m'attendais pas du tout...
Est-ce que ça te fait un choc quand, par exemple, deux jours après, là, tu venais de faire trois jours de suite, donc tu t'es mise hors du temps pendant trois jours, si on peut dire. Est-ce que ça te fait un choc de revenir à la vie normale ou la vie de tous les jours où t'es plus en méditation active?
Bah, toujours un petit peu... Enfin, ça dépend, parce après, des fois, ça fait quand même du bien aussi de revenir un peu à la réalité. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que ça s'arrête, j'ai envie de me dire, bah, quand est-ce que je repars? Tout de suite, cet effet-là où je me dis, bah, finalement, c'est trop bien, et ça s'est arrêté presque trop rapidement, et puis on a tout de suite envie de retourner à cet état-là. Mais c'est vrai que, enfin, il faut les deux aussi. Enfin, je me dis, voilà, c'est bien aussi de se reconnecter un peu à la réalité, de retrouver un rythme un peu normal, aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'envie de repartir arrive très vite.
Finalement. Aussi, donc, tout à l'heure, on rigolait avec ton inscription sur la Suède, mais c'était pas vraiment la sueur froide, parce que, objectivement, et si on raisonne un petit peu de manière rationnelle, là, tu avais 2000 km, mais tu en avais déjà fait 600, soit un bon quart, déjà en trois jours, sur ton expérience entre le Mont-Saint-Michel et Paris. Donc.
Mais non, je partais pas de zéro, donc je savais que c'était quand même fou comme défi, mais oui. Je savais que je partais pas non plus de zéro. Voilà, En fait, je pense que dans ma tête, parce que souvent c'est comme ça, c'est que quand je m'inscris à des choses comme ça, je me dis, effectivement, c'est quelque chose de gros, mais je pense que c'est possible. Enfin, je m'étais dit, voilà, t'as au mois de novembre, j'avais quasiment 6 mois, un peu plus de 6 mois pour me préparer. Sachant que, je savais que cette année, il n'y aurait pas beaucoup de contraintes, à part les mesures sanitaires, mais je savais que j'avais le temps, que voilà, oui. Je suis en télétravail, donc j'ai la chance aussi de pouvoir m'entraîner quand je veux. Donc je m'étais dit, oui, je savais au fait au fond de moi que oui, c'est quand même possible. C'est énorme, mais c'est quand même possible. Mais quand même, le fait de passer de cette distance à 2000 km d'un coup, c'est quand même beaucoup. Normalement, quand on fait ces choses-là, on est quand même censé passer par d'abord des épreuves de 600, puis des épreuves de 800, puis 1000.
De la Suède. Bah alors le...
Ah oui, je suis arrivé au bout. Alors je suis arrivé un petit peu hors délai.
Ouais.
Parce que justement, je pense que c'est le manque d'expérience qui fait que j'ai eu quelques loupés. Mais j'ai quand même réussi à finir en étant très contente, en étant bien.
Alors, voilà. C'était quoi pourquoi okay. Tu es arrivé hors délai? Que s'est-il passé?
Alors, j'ai été surprise par les conditions qui étaient très, très, très dures au début de la course. Ça a été vraiment une surprise. Parce qu'en fait, moi, j'étais partie dans... Enfin, voilà, quand je pars en voyage, quand je suis fatiguée, je dors 20 minutes au bord de la route et je repars. Sauf qu'en Suède, bon, déjà, on a le jour qui dure toute la journée. Donc déjà, c'est vrai que la luminosité, c'est vraiment très perturbant. C'est qu'à 2h du matin, on a la même lumière qu'ici à 10h en plein été, en fait. Le soleil est déjà assez haut, ça tape très fort sur la tête. Et puis même, il faisait... Enfin, voilà, quand je suis partie là-bas, il faisait 30 degrés. C'était... Il faisait très chaud, enfin voilà, je m'attendais pas à ça, parce que moi, au début, je m'étais dit, bon, en Suède, il fera frais, moi qui aime pas la chaleur, je me dis, ouais, il fera frais, ça sera sympa et tout. J'arrive là-bas, boum, 30 degrés l'après-midi, quasiment toute la journée, le soleil qui tape beaucoup. Et surtout, les moustiques. Oui. C'est que là-bas, les moustiques, c'est un cauchemar, parce que dès qu'on s'arrête 2 minutes, on a un nuage autour de soi de moustiques qui s'attaquent, enfin, voilà, je me suis retrouvé avec des boutons, mais énormes sur les jambes, enfin, c'est. Et donc, du coup, impossible de se reposer. Et donc c'est ça qui vraiment m'a perturbée, c'est que je pouvais pas dormir où je voulais, parce que du coup pour se reposer fallait aller en ville, sauf que des fois entre les villes on avait 100-150 km, parce que les villes sont très 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 éloignées. Et donc c'est vrai que sur la gestion du sommeil, c'est là que je me suis complètement loupée, parce que je roulais en étant complètement fatiguée. Et puis même vu que les villes étaient très éloignées, qu'il faisait très chaud, il y avait aussi l'hydratation aussi à prendre en compte. Parce que ça, pareil, j'avais sous-estimé, je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud, donc il y a des moments où j'étais obligée de me rationner en eau. Donc je pense qu'il y a des moments où j'étais un petit peu aussi déshydratée, Et donc ça m'a pas aidé. Enfin, je sais que la première partie de la course, ça a été très compliqué parce que les conditions entre les moustiques qui t'attaquent, la chaleur, l'eau à gérer, la fatigue que je connaissais pas aussi parce que c'était, je m'étais pas beaucoup entraîné sur ça. Et enfin, sur le fait de rouler fatigué, de rouler sur plusieurs jours en gérant la fatigue, ça je m'étais pas trop entraîné et ça je me suis fait un peu surprendre parce que du coup, clairement, j'avais pas assez dormi, je me reposais pas assez. Enfin, donc première moitié, j'ai pris pas mal de retard. Et c'est même parti loin parce que j'ai commencé à avoir vraiment de grosses hallucinations. Enfin, je suis parti dans un délire complet. Hein. C'est que vers le quatrième jour, je pense qu'avec la fatigue cumulée, tout ça, j'ai un trou de 30 km. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant 30 km. Je ne sais pas. J'ai un trou noir. Et en fait, je me suis réveillé un matin devant un supermarché. Et donc moi, j'avais une couverture de survie, donc je me réveillais. Et en fait, je me suis réveillé, je regardais autour de moi, je voyais des mots en langue étrangère, et je me rappelais plus que j'étais là pour la course. Je me rappelais plus que j'étais en Suède. Mon vélo, je ne le reconnaissais pas. Et je suis parti loin. Mon vélo, je ne le reconnaissais pas. Je savais pas où j'étais. Je pensais qu'on m'avait kidnappé et que j'étais arrivé là. Enfin, j'étais complètement désorienté. Hein. Je pense que j'étais. Enfin voilà, je devais être complètement déshydraté. Je pense que j'avais vraiment pas beaucoup dormi, donc mon cerveau est parti. Et parti bon. Donc il y a eu ça, puis après je sais pas pourquoi je me suis rendormie et je me suis réveillée, donc là j'avais les idées qui étaient en place, mais c'est là que je me suis dit, ah oui quand même t'es parti loin parce que tu te rappelles pas de comment t'es arrivé là. C'est-à-dire que, enfin, je me dis que mon cerveau a fait en sorte de m'amener en sécurité à un point, en mode automatique, parce que je me rappelle, enfin c'est vraiment comme une gueule de bois, hein. Je sais pas comment je suis arrivée là, je sais pas, enfin j'étais complètement désorientée, et là je me suis dit, ah oui effectivement t'es quand même parti loin, donc on va essayer de se calmer et de finir en sécurité surtout, pour pas avoir d'accident, enfin voilà. Donc c'était surtout ça. Et après, en fait, ce qui était bien, c'est que après cette nuit, je savais que, en fait, l'organisation avait prévu une nuit en auberge au milieu de la course. Donc c'était la nuit suivante. Donc je savais que qu'il fallait que je continue jusqu'à ce point-là pour avoir un bon sommeil et pour pouvoir récupérer et pour partir pour la suite. Parce que ce que je savais, c'est que physiquement, en fait, j'étais très bien. Enfin, les jambes allaient bien. Quand je mangeais, quand je buvais, ça allait très bien, mais c'est juste vraiment cette gestion de la fatigue que vraiment j'ai eu du mal à, que j'ai du mal à faire. Parce que je manque aussi d'expérience dans ces. Je manque d'expérience clairement sur des journées comme ça de vélo à suivre. Et parce que les conditions aussi étaient vraiment.
T'as été un petit peu surprise par
c'était
le.
C'était pas simple.
Finalement par le climat et puis l'ambiance suédoise, on s'attend pas forcément. Quand on va dans ce genre de pays, pareil c'est pour ça. L'Écosse ou l'Angleterre, en été c'est l'horreur, on se fait attaquer par les moustiques et tout, voire même des sacrés moustiques, et on ne s'attend pas à ça dans ce genre de pays. C'est des conditions qu'on attend en Espagne ou dans un pays plus tropical, mais pas au nord, pas en Suède les mecs quand même.
Bah, c'est ça. Ouais. Bah, moi je m'attendais, enfin j'avais vraiment la vision idéalisée de la forêt, donc j'avais ramené mon hamac. Parce que j'adore dormir moi dans mon hamac, donc je m'étais dit, bon bah comme ça je vais me l'accrocher aux arbres, je vais pouvoir faire des siestes de 20 minutes et puis repartir quand je serai fatigué. Bah non, non, impossible, parce que, enfin même en mettant un sac autour de soi pour
c'est
se protéger des moustiques, on a quand même le bruit, et c'est impossible de dormir. Ah oui, donc ouais. Impossible de dormir,
et même en dormant c'est pas réparateur. Tu sais comment on nous donne dans l'avion. Et bouchons peut-être.
Non, bah, après la lumière moi ça me dérange pas trop parce que j'arrive à dormir. Ouais. Bah, je pense que j'aurais dû, ouais. Mais, enfin, même après, il y a quand même les piqûres, enfin, même à travers les tissus, les moustiques qui piquent, enfin, c'est ils sont voraces, hein, bah, c'est. Donc, moi, peut-être qu'il aurait fallu que je sois plus équipé.
C'est l'aventure. Si on savait exactement ce qui va nous arriver, bah, faut rester sur l'Iron Man, hein. Là, il n'y a pas de moustiques.
C'est ça. Non, mais après, ça me permet aussi de. Enfin, voilà, il a quand même fallu gérer. Enfin, c'est aussi ce qui me plaît, c'est qu'il faut aussi gérer ses imprévus et trouver des solutions, continuer à avancer. Enfin, c'est ça. Oui, voilà, c'est l'aventure.
Est-ce
c'est ça aussi qui
tu as songé à abandonner à un moment donné. Parce que là, la chaleur, que visiblement tu n'aimes pas, les moustiques, qui
alors,
eux t'adorent. Est-ce qu'à un moment donné, tu as songé à abandonner?
Alors, bizarrement, enfin, je sais pas si c'est bizarre, non, enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit, en tout le long. Parce que je m'étais dit, au pire, enfin, voilà, c'est ta première expérience, de toute façon, au pire, même si t'arrives très en retard, c'est pas grave. Et, il y avait aussi Une autre chose, c'est que, en fait, l'organisation, donc on avait un sac qu'ils ont pris au départ, qu'ils ont ramené à l'arrivée. Je m'étais dit, bah, de toute façon, il faut que je récupère mon sac. Donc, il faut que je rentre. Sachant qu'en Suède, pour prendre le train avec un vélo, c'est très compliqué. Et que, enfin, parce qu'il faut le démonter. Donc, moi, j'avais pas ma sacoche de transport. Et puis, de toute façon, j'avais laissé mon permis dans mon sac aussi. Donc, je m'étais dit, de toute façon, tu peux même pas prendre de voiture. Enfin, voilà. En gros, la seule solution pour aller à l'arrivée, c'est à vélo. Donc, bah, continue. Et puis, même si tu mets 3 jours de plus, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est ta première expérience. Moi, j'ai adoré rouler sur les routes. Enfin, les routes là-bas, elles sont super belles. Les paysages, ils sont beaux. Je m'étais dit, t'as tellement de la chance d'être là. Parce que, mine de rien, pendant l'année, jusqu'à un mois avant la course, j'étais pas sûr de pouvoir partir. Hein, parce qu'avec les mesures sanitaires, c'était compliqué. Donc, je m'étais dit, t'as tellement de la chance d'être là. Tu fais du vélo, tu aimes ça. T'es sur des routes qui sont magnifiques. T'as des paysages qui sont super beaux, même si les conditions sont compliquées. Donc, non, t'abandonnes pas. Enfin, physiquement, tu vas bien. T'as pas de douleur nulle part. T'as pas de soucis mécaniques. Donc, aucune raison d'abandonner. Donc, on continue. Et puis, je savais aussi qu'à partir du moment où j'allais avoir cette nuit d'hôtel au milieu de la course, je savais que là, je pourrais vraiment bien récupérer et que les conditions dans le sud aussi allaient être plus simples. Parce que les jours d'après, justement, il faisait un peu plus frais, il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Donc, c'était beaucoup plus simple quand même que ce qu'on avait dans le nord. Donc, je m'étais raccroché à ça. Puis, une fois que j'ai passé la moitié de la course, en fait, la deuxième moitié, je l'ai faite vraiment beaucoup plus rapidement. Enfin, j'ai réussi à enchaîner des grosses journées en gérant beaucoup mieux aussi la fatigue. Enfin, voilà. Donc non, jamais j'ai pensé à abandonner parce que déjà il fallait récupérer mon sac. Enfin mine de rien, c'est ce que j'avais pensé. Hein. Je me suis dit de toute façon faut que t'arrives au sud, donc t'as pas le choix. Enfin tu peux pas rentrer, tu connais personne en Suède qui va te raccompagner, donc non, tu continues. Et puis puis la chance d'être là aussi. Enfin c'est. Je me dis j'ai pas le droit d'arrêter. Enfin.
Donc ça veut dire que la deuxième partie, tu t'étais acclimaté finalement. Il y a une petite phase d'acclimatation, comment arriver dans un pays où il faisait très chaud, c'était une sorte de choc culturel finalement. Donc tu as eu combien, 2, 3, 4 jours d'acclimatation un petit peu difficile.
C'était à peu près 4 jours pour arriver vraiment jusqu'au milieu de la course. Et après, à partir du moment où j'ai eu cette récupération à l'hôtel, je crois que j'ai dormi quasiment 10 heures. Ouais. Enfin, je suis resté très 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 longtemps à l'hôtel. Et après, même physiquement, je sentais que mon corps avait pris le rythme.
Ouais.
Et que finalement, ça, les jambes tournaient bien. Et puis même, j'ai réussi aussi, parce qu'il y avait moins de moustiques, donc je pouvais faire aussi des micro-siestes. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai appris sur place, parce que ça, avant, j'avais du mal. Et c'est vrai que dès que j'étais fatigué, au lieu de persister, je me disais, bon, arrête-toi, fais une micro-sieste de 10 minutes. Et dès que je faisais ça, ça repartait, et puis je repartais pour 3, 4, 5 heures de vélo. Et donc grâce à ça, je le vois clairement sur quand je regarde comment j'ai fait ma course, la deuxième moitié, j'arrivais à faire des grosses étapes beaucoup plus facilement, avec les jambes qui tournaient bien.
Quand tu dis grosses étapes, c'était le jour entre, par exemple, tes 4 jours d'acclimatation, tu étais une moyenne quotidienne de combien sur l'acclimatation avant la grande nuit de 10 heures?
La première étape, je pense que je m'étais emballé parce que pareil, j'étais super en forme, tu sais, donc je crois que j'ai roulé quasiment 24 heures sans trop m'arrêter. Donc la première étape, je crois que j'avais fait 340 km, je crois, quasiment en 24 heures. Enfin voilà. Je pensais pas faire autant, je m'étais dit, ouais, t'es en forme et tout, t'as pas sommeil, donc continue à rouler, puis il fait jour. Donc, t'as pas envie de dormir quand il fait jour parce que t'as pas besoin d'allumer tes lumières, t'as aucune raison de t'arrêter, donc j'ai continué. Et je crois qu'après, justement, j'ai dû baisser à 200 km par jour, je pense à peu près. C'est ça que j'ai pas trop regardé parce que je sais pas trop par jour. Parce que pareil, j'essaie aussi de rouler de nuit quand il faisait un peu plus. Enfin, de nuit. Le soir quand il faisait un peu plus frais et de dormir justement quand il faisait plus chaud. Donc mes jours étaient un peu en décalé aussi. J'avais fait une grosse première journée. Après, je crois que je suis descendu plutôt à peu près à 200 km par jour. Sachant que pour rentrer dans les délais, il fallait en faire 240 par jour.
Et après, quand tu as passé ta nuit d'acclimatation.
Donc j'étais descendu. Et après, je faisais plutôt des étapes de 250, même une fois je suis monté à 280. Oui, parce qu'il y avait aussi un autre élément, c'est que les délais, je l'ai très mal calculé. Parce que en tout, en fait, on avait 210 heures pour faire la course. Donc 210 heures, ça fait 8 jours et 18 heures, si je me trompe pas. Et en fait, je m'étais dit, bon, si le départ est le 1er juillet. Ça veut dire que le délai, c'est le 9 juillet à telle heure. Sauf que non, parce que 8 jours, c'est jusqu'au 10 juillet. Enfin voilà, j'avais fait une erreur de calcul bête. Et donc c'est vrai qu'à du coup au milieu de la course, je m'étais dit bon bah de toute façon va à ton rythme, fais ça comme un entraînement et ralentis un petit peu. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait une plus petite étape à un moment. Et c'est vrai qu'après je me suis rendu compte sur la fin de la course, je me suis dit mais non, le délai du coup c'est le 10 juillet, donc si tu te dépêches et que tu vas assez vite, peut-être que tu peux réussir à accrocher, ouais. Accrocher la barrière noire. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé tout de suite à faire des plus grosses étapes où je montais quasiment à faire 280 km. Voire un peu plus,
quoi, c'est rattraper le délai de combien?
J'ai pas réussi à le rattraper, mais. De 12 heures, je crois, il me semble. Bon. 12 heures, ouais.
Sur un vœu.
Donc, bon, sachant que le dernier jour, comme il pleuvait très fort le matin, je suis parti un peu plus tard parce que je m'étais dit, ouais. Bon, de toute façon, t'es hors délai, donc autant finir dans
les
conditions
sans
trop de pluie.
C'était 4 jours d'acclimatation qui t'ont, pénalisé, clairement. Et encore, même pas les 4. Parce que les 12 heures.
C'est ça. Ouais.
Enfin, si t'avais roulé correctement, même mieux sur 2 jours. Mieux rouler sur deux jours en plus, bah c'était bon, t'étais dans les délais. Donc, Et t'es déçu de pas être hors délai, d'être hors délai, pardon.
Non, parce que je sais que j'ai fait le maximum. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, et je sais aussi que c'est vraiment le manque d'expérience. Enfin voilà, clairement c'est des erreurs un peu de débutant que j'ai fait au début, je pense. Donc je me dis bon, c'est normal. Déjà d'avoir fini, ça me paraît tellement énorme. Enfin, de me dire que j'ai fait 2100 km en 9 jours, c'est déjà tellement énorme pour moi que bon, je suis quand même contente. Et je sais aussi que j'ai pas forcément eu la prépa que j'ai voulu faire, ouais. Parce que l'année a été très compliquée. Enfin c'est avec les mesures sanitaires. La course, je savais pas si elle allait voir. Enfin, j'étais pas sûr qu'elle ait lieu, donc c'est vrai que ça motive pas aussi à se dire bon, faut que j'aille sortir faire du vélo à 6h du matin avant de bosser. Enfin, j'ai eu des moments où je me suis beaucoup moins entraîné parce que j'étais pas motivé, parce que je savais pas si ça allait se faire ou pas. Donc je sais que j'ai pas eu la prépa optimale. Je sais que voilà, j'ai fait des erreurs un peu débutant pour la course, donc non, je suis pas déçu parce que je sais que j'ai fait le maximum, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis pareil, j'ai pas abandonné. Enfin, quand je vois le nombre de personnes qui ont abandonné, je me dis bah, toi, non, t'as continué jusqu'à la fin et. Donc non, pas déçu, mais c'est vrai que j'ai quand même mon esprit qui me dit quelque part. Ouais, j'ai quand même envie de.
T'as un petit air vexé.
Ça m'énerve quand même un petit peu. Je me dire,
t'es un petit peu vexé quand même.
J'ai envie de. J'ai envie de me dire, j'ai envie quand même de oui,
ça,
je veux
ça,
réussir
je
à faire quelque chose où je rentre dans les délais. Enfin voilà.
Étrangement, j'ai aucune inquiétude pour toi pour la prochaine. Si on parlait un petit peu de ton vélo. Et de ce qu'il y a autour, donc ce qui en fait un vélo de bikepacking. Tu as quoi comme vélo, quoi comme sacoche, qu'est-ce que tu as choisi comme pneu, comme éclairage, comme selle également, et ta combinaison cuissard-selle, parce que ça on sait que même si c'est spécifique à chaque pratiquant, c'est quand même bien d'avoir une petite idée.
Alors au niveau de mon vélo, du coup je suis parti avec un gravel. Alors justement, ça a été la grande interrogation cette année, parce qu'en fait, moi, j'ai deux vélos.
C'est un vélo route, donc vélo
carbone, DI2, enfin voilà, vraiment le bon vélo route. C'est un vélo origine. Donc l'Axom 2 GTR, c'est ça. Donc vraiment le vélo qui est fait pour aller vite, enfin voilà. Et donc j'ai un gravel. Donc mon gravel, c'est un Fuji Jari 1.1 en aluminium. Voilà. Donc ça a été un peu la grande interrogation cette année en me disant est-ce que je pars avec mon vélo carbone ou est-ce que je pars avec mon gravel. Donc finalement je me suis dit bon, pars quand même avec le gravel parce que déjà je peux fixer un peu plein de choses partout. J'ai pas le souci aussi du DI2 qui peut tomber en panne au milieu du parc. Puis bon, je me dis ce sera peut-être plus confortable de partir avec un vélo plutôt partir avec celui-là. Donc du coup je suis parti avec avec mon gravel. Donc j'ai changé pas mal de choses parce qu'il avait, enfin au début voilà, il avait des gros pneus, enfin voilà, c'était vraiment le gravel typique. Donc comme je savais que je passais que par des routes, du coup j'ai mis des pneus, je suis parti avec des pneus Continental, les 4 saisons, Four Seasons, en 32, ouais, c'est ça, en 32, donc qui m'a permis de bien
pneus,
rouler là-bas.
En 32,
donc, enfin je sais que j'en étais très contente. Enfin,
c'est confort. Tu me laisses ou chambre à air?
Ouais, non, c'est ça, enfin, sur ce. Chambre à air. J'ai du mal à passer au tubeless, je sais pas. Chambre à air, ça me va. Donc, Ah, les deux. Enfin, je pense que je reste un petit peu à l'ancienne.
C'est l'essentiel.
Mais ouais. Bon, pour l'instant, ça me convient. Donc, voilà. Donc ça, après pareil, j'avais dû changer aussi la cassette, parce que en fait avant, enfin moi je suis parti avec les plateaux avant, j'ai du 46-30, donc bon, qui me suffit pour faire la longue distance. En fait avant j'avais du 11-34, sauf que comme en Suède, ouais. Je sais qu'il n'y avait pas des grosses côtes, que c'est relativement plat, enfin c'est plutôt vallonné en fait, c'est jamais des gros, très grosses côtes, donc je suis parti avec du 11-30, du coup pour avoir un peu plus une cassette un peu plus resserrée, donc ça. Du coup, je suis parti avec tout le matériel pour la réparation.
Les classiques.
Chambre à air, rustine, pompe. Enfin voilà les choses classiques. Un maillon de chaîne si jamais j'avais une case de ce côté-là. Au niveau des sacoches, alors en tout j'avais une sacoche de cadre, une sacoche à l'avant et une sacoche de selle. Une grosse sacoche de sel à l'arrière. Donc voilà. Puis après, au niveau des équipements... Oui, au niveau de la selle. Moi, j'ai une selle spéciale Italia. Pour les femmes, en fait. C'est alors, je sais plus, c'est la marque Italia... Alors,
on dirait un nom de rasoir, tu sais.
Boost, Flo Lady... C'est le nom de la selle.
Super Shave, mais non, c'est une selle voilà. De lieu. Très bien. Ouais.
Voilà. Donc je sais que c'est, enfin j'ai la même sur mon vélo route et c'est une selle. Bon, après c'est la première fois que je teste une selle adaptée aux femmes parce que c'est vrai qu'avant je mettais que les selles standards donc je pense que c'était pas celle qui était adaptée aux femmes. Enfin depuis que je suis passée à celle-là je sais que j'ai plus aucune douleur. Enfin tout se passe bien. Puis même au niveau du cuissard du coup j'avais alors je sais plus le nom exact mais c'est la marque Le Bram. Je m'étais acheté ça et pareil. Enfin de ce côté-là j'ai aucune douleur, aucun frottement. Enfin c'était tout s'est bien passé. Enfin voilà c'était nickel. Donc du coup voilà, donc j'étais parti avec deux cuissards Le Bram, j'étais parti avec deux maillots, le vêtement de pluie s'il pleuvait, les manches longues.
C'est classique mais efficace et éprouvé. Tu as largement utilisé pas de fanfreluche, ouais. Mais que des trucs que tu maîtrises.
Voilà.
Ouais. T'as pas fait d'expérimentation, te dire allez tiens j'emmène ça au cas où.
Et puis,
ou tiens je viens de le recevoir, j'ai absolument envie de l'essayer. C'était que du que des trucs éprouvés. Ouais.
Donc, que du TC. Par contre, pour le dormir, ça, par contre, j'ai testé un nouveau truc. C'est. Bon, le hamac, ça, je connais c'est déjà. Mais par contre, pour dormir, parce que justement, au début, je m'étais dit, je prends mon sac de couchage. Mais finalement, j'ai vu quelqu'un qui était parti comme ça sur un ultra avec les sacs à viande, enfin, les sacs en soie, enfin, en drap de soie, et une couverture de survie. Et je me dis, bah, tiens, c'est pas mal ça comme solution, je vais tester ça. Et c'est vrai que j'ai testé ça et c'est pas mal parce que du coup c'est super léger. Ça pèse. Enfin voilà, la couverture de survie. Moi j'ai une couverture de survie réutilisable qui pèse peut-être 100 grammes. Le drap de soie, je pense que ça pèse aussi quasiment 150 grammes. Enfin c'est rien par rapport à un sac de couchage. Et c'est vrai que c'est super. Enfin pour des températures comme ça qui descendent pas. Qui sont pas descendues très. Enfin voilà, qui n'étaient pas très basses. Bah ça fait le boulot. Enfin c'est.
Sur ces trucs-là, ça donc, te dérange coup, pas de sacrifier de un peu de ton confort justement de. De dormir par terre, de ne pas forcément pouvoir te laver comme tu le souhaites. C'est un souci ou tu au contraire ça te plaît bien de renoncer temporairement au confort et à l'hygiène?
Alors pas du tout. Pas du tout parce que justement c'est un autre aspect aussi que j'aime bien parce qu'il y a le sport mais j'ai aussi tout un côté très nature. Enfin j'adore être en forêt, j'adore être dehors, j'adore dormir... n'importe où. Enfin voilà, je pose très souvent mon hamac en forêt pour dormir, pour dormir le soir. Enfin, ça me dérange pas du tout de dormir n'importe où. Enfin, voilà, juste, enfin, même le côté nature, même me retrouver toute seule au milieu du parc, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore ça. Donc, de ce côté-là, j'ai pas du tout de soucis.
Un peu oursonne même.
Enfin, j'avais aucune crainte dessus. Enfin voilà, c'est mon côté un peu aventurière. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que, enfin, c'était vraiment la chose parfaite parce que ça mêlait le côté sportif mais aussi le côté aventure. Enfin voilà, je me dis quand même qu'il y a des moments où je me suis retrouvée à être toute seule sur mon vélo au milieu de la forêt, où j'ai croisé plus de rennes que d'humains. Enfin, voilà, sur la route, je croisais plein de rennes, mais je croisais personne sur des kilomètres. Enfin, pendant des heures et des heures, je croisais personne. J'étais toute seule et moi, ça me fait pas du tout. Enfin, justement, moi, c'est ce que j'adore. Enfin, c'est que Voilà, il n'y a que moi, je dois me débrouiller, je dois...
J'avais une question super intéressante, mais là je m'en souviens pas, donc on va laisser passer un petit instant que je retrouve mes esprits. Bah non, ça revient toujours pas, donc tant pis. Attends, je réfléchis quand même, j'essaye que ça revienne un petit peu, mais c'est pas tous les jours facile ici. Hein. Tant pis. Si tu me parlais un petit peu de ton entraînement, ça reviendra plus tard, et puis on fera une parenthèse et on reviendra sur ce petit truc-là. Tu m'as dit que tu es en télétravail, que tu peux t'entraîner relativement comme tu veux, mais que malgré tout, de temps en temps, se lever à 6h, etc., ça veut dire que tu n'es quand même pas si flexible que ça. Ou parce que tu es super matinale.
Ouais. Non, c'est parce que je suis plutôt matinale. Bah, en fait, moi, ce qui m'a surtout limité, c'est le couvre-feu. Enfin, c'est bête, hein. Mais c'est que quand le couvre-feu, à un moment, ça finissait à 18h, je crois, 19h, je sais plus. Du coup, ce qui avait le plus pratique par rapport. Parce que bon, je suis en télétravail, mais j'ai quand même des horaires à respecter. Donc, ce qui avait le plus pratique, c'était de partir le matin. Puis souvent, en fait, je me disais, bon, c'est fait, comme ça, t'as fait ton entraînement du matin. Puis ça simule. Enfin. Oui. Par les cyclistes. Et donc du coup voilà, j'allais à 6h et je faisais des tours et puis je rentrais chez moi pour aller bosser.
Oui.
Donc il y avait ça, puis après sinon au niveau entraînement, j'ai aussi un home trainer chez moi, donc
tu faisais du Zwift.
Voilà, j'ai pu faire des sessions aussi sur home trainer. Et justement. Ouais, c'est ça. Donc j'ai essayé aussi de enfin de toute façon, mon entraînement, ça s'est surtout résumé à essayer de rouler le plus possible. Enfin, j'avais pas forcément un entraînement très structuré.
Ça t'a suffi finalement.
Mais c'était rouler dès que
tu enfin voilà, il y a pas eu de problème de jambes. Ton problème c'était les moustiques et la chaleur. Ouais.
Ouais, c'est ça. Non, enfin franchement, physiquement, j'étais très étonné parce que même à la fin de la course, enfin j'avais l'impression, bon, j'avais un peu les jambes lourdes, mais que j'avais enfin si on me demandait de continuer encore et encore, enfin, j'avais pas de soucis de ce côté-là. C'est même, je me suis demandé, est-ce que ça aurait pas valu le coup d'appuyer un peu plus fort sur les pédales. Enfin, je pense que ça, j'ai peut-être pris un rythme vraiment trop cool. Je pense que j'aurais pu plus avancer peut-être un peu plus vite. Mais voilà, j'ai fini la course, j'avais pas de douleur nulle part. J'étais musculairement, j'ai jamais
cramé. Enfin voilà, j'étais vraiment bien. Expérience à prendre. Tu sais que tu peux mieux réguler ton allure et peut-être aller un poil plus vite. Et peut-être, peut-être que ça va être l'opposé, que la prochaine, tu vas aller vraiment trop vite et que tu vas exploser en vol.
C'est ça.
Peut-être.
Mais
c'est aussi ça qui est intéressant. Et justement, maintenant, tu te projettes
c'est comme ça aussi qu'on apprend,
vers quelle épreuve ou vers quel voyage tu te projettes vers où maintenant?
C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que comme je viens juste de rentrer, pour l'instant, je suis un peu en... Parce que bon, mine de rien, mentalement, ça m'a quand même beaucoup pris beaucoup d'énergie. Donc j'ai quand même besoin un peu de récupérer de tout ça. Je pense que je vais un petit peu reprendre aussi. Je vais essayer de faire du triathlon un petit peu cette année, faire une petite épreuve pour le plaisir. Mais je sais que l'année prochaine, je pense que je vais retenter une épreuve comme ça. Alors je sais pas encore laquelle. Il va falloir que je trouve. Mais justement, là, maintenant, j'ai envie de repartir sur une épreuve comme ça, mais avec une vraie préparation. Enfin, vraiment, essayer de... Parce que je sais que... Je pense que naturellement, enfin, je pense que j'ai des capacités quand même. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en endurance, je pense que c'est quelque chose que j'ai naturellement et que j'ai envie vraiment d'exploiter au maximum. C'est que j'ai vraiment envie de faire un vrai entraînement, une vraie préparation, vraiment me mettre, enfin, essayer de maximiser vraiment mes capacités dans ça et de donner le maximum. Donc, je pense que je repartirai. Alors, je sais pas, comme je disais, je sais pas encore sur quelle épreuve, mais vraiment essayer de repartir avec une vraie prépa très sérieuse, enfin, vraiment faire quelque chose, vraiment donner le maximum pour essayer de faire.
Reprendre un petit peu ce que le modèle que tu avais certainement en triathlon, c'était beaucoup plus structuré.
Je sais pas encore. Ouais.
Alors que là, tu t'es contenté de rouler et manifestement, ça fonctionne très bien, mais tu as envie de faire mieux.
Ouais. Ouais. Bah, c'est ça. Mais même, au fond, cette année, j'ai quand même eu, avec le confinement et tout ça, j'ai quand même eu des moments où j'étais pas motivé. Enfin, voilà. Il y a des semaines où je roulais beaucoup moins, même des semaines où je roulais quasiment pas, donc c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément à faire. Donc c'est pour ça cette année j'ai vraiment fait le strict minimum, je pense, parce que je pouvais pas faire plus, parce que voilà, la situation était un peu compliquée. Mais je pense que si ça revient un petit peu plus à la normale, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus et d'arriver encore plus préparé. Mais voilà, si, je me dis déjà, si déjà en ayant fait une prépa comme ça, t'arrives déjà à faire ça.
Si t'as envie de doubler et prendre ta revanche sur les pays nordiques, je pense que la semaine prochaine, dans 10 jours, il y a la Northcape 4000 qui part. Donc ça peut être aussi une petite revanche, tu vois, ce genre de choses où. Il y a plein d'épreuves longue distance en France qu'on soit très très médiatisées, mais également absolument pas médiatisées, comme toutes celles de la Normandie 4, toutes celles de Ride Bike 11 dans le sud. Ils organisent un truc en Espagne de 2000 km, super dur, super intéressant. Il y a plein d'épreuves. C'est Et puis ça coûte pas si cher que ça, donc c'est parfait. Et pas de tout terrain. Pas de tout terrain, pas de gravel. Moi, maintenant je dis tout terrain, mais.
Non, je pense que. je suis moins à l'aise quand même. Enfin, j'aime bien quand c'est lisse. Je pense que ça viendra peut-être avec le temps, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les passages un peu plus techniques et tout ça. Bon, après, je pense que comme tout, ça s'apprend, mais moi,
ça,
je suis plus aller sur la route, à tracer.
Si tu préfères aller vite, mais c'est vrai que le côté technique s'apprend, mais si tu préfères aller vite, peut-être que ça va pas te faire rire de galérer, de pousser dans les cailloux.
C'est un peu ça.
Ouais. Ça viendra quand
peut-être
tu passeras
un jour, mais
sur ton gravel.
Pour l'instant, non, je suis plutôt.
Parce que les cailloux, c'est pas. Les multiples crevaisons en tout terrain, c'est pas drôle du tout.
Peut-être.
T'as pas crevé en Suède ?
Aucune crevaison. Mais même aucune crevaison, aucun souci mécanique. Enfin, ça, par contre, j'étais super surpris parce que je me suis dit, sur 2000 km, il y a forcément arrivé quelque chose.
Ouais, ça s'est passé.
Et rien du tout. Mais. En même temps, les routes en Suède sont nickel. Enfin, j'étais vachement surprise. Il y a pas de gravillon, il y a pas de nid de poule. C'est super roulant. En même temps, je pense que surtout dans le nord, en fait, c'est comme c'est la seule route qui descend. Les camions y passent. Enfin, tout le monde y passe. Ouais. En fait, c'est quasiment l'équivalent d'une autoroute. Enfin, c'est la route principale, c'est la seule qui descend. Donc, je pense que c'est vachement bien entretenu. Vraiment, j'étais étonné par la qualité des routes.
Ils sont sympas.
Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas eu crevaison. Je pense qu'avec n'importe quel pneu, ça aurait tenu.
Parlons-en des Suédois, tiens.
Oui, alors, sur la route, si on parle du comportement sur la route, c'est le jour et la nuit par rapport à la France. C'est que sur la route, alors au début, moi j'avais peur parce que je m'étais dit, parce qu'on prend quand même les routes européennes, c'est vraiment les grosses routes qui sont très passantes où les camions passent aussi, tout ça. Donc, je m'étais dit, mais ça va être un cauchemar. Et finalement non, parce que alors ils roulent très vite, je pense qu'ils roulent pas aux limitations de vitesse, donc les voitures arrivent très vite, mais par contre ils font vachement attention aux vulnérables. C'est que moi, à chaque fois, ils prenaient vachement de distance pour me dépasser, même les camions ils allaient complètement sur la voie de l'autre côté, donc toujours très sympa. Quand j'étais en ville, je pense qu'il y a des moments où j'ai pas forcément pris la piste cyclable, où je faisais un peu n'importe quoi sur la route, les gens étaient très tolérants, il n'y a jamais eu de souci sur la route. À chaque fois, même les gens étaient super sympas. Ouais. Dès qu'ils me voyaient arriver avec mon vélo, je pense qu'ils savaient que je m'embarquais pour une grosse aventure. Donc, ils étaient toujours, toujours très sympas. Très, très, très bienveillants. Je pensais vraiment faire attention à l'autre.
Tu as dit, ils font attention aux vulnérables.
C'était vraiment très sympa de ce côté-là. Très reposant.
C'est ça. Ouais.
Que ce soit piéton, que ce soit piéton ou cycliste, on sent vraiment que. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti par rapport à la France, c'est que. C'est que quand t'as une voiture qui arrive, va vraiment faire attention à l'autre, même si l'autre fait un peu des bêtises, ou fait
le
pas ce qu'il faudrait faire.
Finalement,
il râle pas,
avec
la
chaleur, les moustiques, le comportement des automobilistes. Okay. Il est plutôt à l'aller quand tu es arrivé en Suède, ou plutôt au retour quand tu es revenu en France? Le vrai choc culturel, il est où?
Il est quand même au retour. C'est vrai que hier, je me suis retrouvé à rouler dans Paris. Ça m'a fatigué. Parce qu'on est obligé de faire attention à tout. Et puis même, je me dis, quand on est là-bas, c'est tellement, tellement reposant de pouvoir... Enfin, pour moi, ça devrait être la vie normale, en fait. C'est... On fait tous attention aux autres, où il n'y a pas de souci de sécurité. Enfin, c'est... Donc c'est vrai que quand on revient ici, on se dit, mais pourquoi c'est pas comme ça aussi ici? Enfin, ça serait tellement, tellement bien, et c'est possible. Enfin, je me rends compte aussi que c'est possible aussi de pouvoir partager la route.
C'est brutal, hein.
Donc, ouais, c'est vrai qu'au retour, ça m'a fait quand même un choc, où je me suis dit, ouais, c'est quand même violent. Ouais. Et encore, là, j'ai pas encore roulé, j'ai pas encore repris les sorties, j'ai pas encore repris les sorties du week-end, mais je pense que ça va me faire quelque chose. C'est vrai que là-bas, du coup, je me retrouvais, même si je savais que les voitures arrivaient un peu vite derrière moi, j'avais pas peur. Enfin, c'est vrai que, parce que moi, j'ai rapidement peur sur la route. Enfin, c'est vrai qu'en France, des fois, il y a des sorties où je me dis, c'est quand même dangereux. Mais là, j'avais aucune crainte. Enfin, vraiment, j'ai eu peur les premiers jours parce que je connaissais pas, mais après, c'était aucun. Enfin, même si on me demandait de prendre une grosse route, il y a un moment, je me suis retrouvé à l'entrée d'une ville où il y avait une grande côte, enfin, une très longue côte, au milieu d'une route qui était très fréquentée avec beaucoup de camions et beaucoup de voitures. J'ai pas eu peur, parce que je savais que les gens faisaient vachement attention, et que et pourtant j'allais pas vite, parce que du coup je montais dedans, j'étais peut-être à 15 à l'heure, et il y avait beaucoup beaucoup de voitures, bah non, les voitures elles attendaient tranquillement derrière, et j'ai pas eu peur, en France j'aurais pris la même route, même je l'aurais pas prise.
Le total pour le gravel,
je l'aurais pas prise.
Et au moins quand on roule dans la forêt, on est tranquille.
Donc c'est...
Toi qui aimes dormir dans la forêt, bah tu pourrais aussi emmener ton hamac dans la forêt avec ton vélo, et rouler, dormir dans la forêt, et ne plus voir... C'est les automobilistes.
Bah, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai que, parce que plus ça avance, moi je me rends compte que plus les années avancent et plus, plus ça, les gens sont agressifs sur la route. C'est vrai que ça commence quand même à peser. Je sais qu'à chaque fois que je fais une sortie, j'y pense. Pourtant, j'ai pas eu encore d'accident. J'ai déjà eu un accrochage avec une voiture, mais rien de grave. Mais c'est vrai que c'est quand même pesant. Enfin, c'est dommage que.
Ouais,
de faire un loisir comme ça qu'on pense tout de suite à ça. Enfin,
c'est mon deuxième trou de cerveau de la journée. Je pense qu'il va être temps moi aussi d'aller rouler un petit peu, parce que quand même j'ai une dernière question subsidiaire. Quand est-ce qu'on roule ensemble, parce qu'on est à 60 km l'un de l'autre à peu près, 60-70, quand est-ce que tu te fais un Versailles Chartres, quand est-ce que tu viens boire un café à Chartres?
Bah Ah bah n'importe quand, de toute façon là je suis rentré, j'ai pas de défi à venir, donc
et puis voilà. Bon, alors je peux pas te donner de date.
Non, faut me dire la date à chaque fois, je dis à tout le monde, si vous voulez que je vous rejoigne quelque part, vous me dites quand, et puis
mais en tout cas le jour où ça te prend, ou si tu veux venir avec du monde et que vous vous dites tiens, on va se faire un aller-retour à Chartres, manger un truc et boire un café à Chartres à la cathédrale, et bah tu me fais signe, parce que j'habite sur la route, donc je suis juste à côté, et voilà. Ah bah oui.
Okay. Bah, surtout que c'est un classique, hein, parce que quand on part de Versailles, c'est
pour ceux qui veulent faire toujours un petit tous les 6 points,
il faut toujours un petit tour à Chartres,
un 200 peinard avec pas trop de dénivelé, c'est quand même un classique, quoi. Et puis généralement on peut revenir avec le vent arrière, donc c'est aussi agréable, tout simplement. Donc le jour où ça t'arrive, n'hésite pas, tu seras la bienvenue. Je vais te laisser pour est-ce qu'on a tout couvert, ou est-ce qu'on aurait oublié quelque chose, selon toi? Ouais. Ben, moi, je vais pouvoir te laisser. Avant de te laisser, je vais te remercier pour le temps consacré également, te féliciter, parce que c'est pas non plus un... Enfin, selon toi, c'est un exploit, mais en même temps, tu te prépares, tu prends le départ d'un truc, et tu vas au bout. Bon, ben voilà, si tu n'avais rien fait avant... on pourrait parler d'exploit et encore, mais là t'es arrivé bien préparé avec de l'expérience. Je pense que t'es surprise, mais en même temps je pense que tu vas faire bien mieux à l'avenir, donc vas-y.
Ouais, on va essayer. Mais si, il y avait quand même quelque chose que je voudrais quand même rajouter. C'est vrai que il y a tout le côté Twitter. Parce qu'on m'a beaucoup soutenu sur Twitter. Parce qu'en fait, pendant la course, j'ai eu l'occasion de partager vraiment, pas totalement en live, mais de partager beaucoup mes sentiments. J'ai essayé de partager aussi tout ça, même la préparation. Hein, j'ai essayé de partager tout ça. Pendant la course, pendant le trajet aussi pour aller là-bas, pendant la course aussi, j'ai envoyé pas mal de photos. J'ai parlé un peu de mes moments d'euphorie, j'ai parlé de mes moments un peu de plus calme. Et c'est vrai que j'ai été surprise un peu par l'engouement qu'il y a eu par rapport à ça. C'est que, il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont dit qui m'ont remercié aussi de partager cette course-là, qui m'ont dit que grâce à moi, ils ont aussi voyagé. Enfin, ça a été très valorisant et ça a aussi permis que l'expérience soit encore plus belle. C'est vrai que de partager tout ça avec des inconnus, c'était top, et de faire découvrir aussi ce que c'est ce genre d'épreuve vraiment de l'intérieur, ça a été génial et ça m'a beaucoup aussi apporté, parce que finalement je me sentais pas, enfin voilà, je me suis jamais vraiment senti seul. Je me suis dit, il y a tellement de gens derrière moi qu'il faut avancer. Donc ceux qui vont peut-être écouter, qui ont suivi la course,
je te remercie aussi
d'avoir suivi tout ça, d'avoir envoyé
les gens, éventuellement de montrer de rappeler que c'est possible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais souvent il y a une petite appréhension, tu vois, à faire 100, 150, 200, 250, ou à s'inscrire sur une épreuve où il y a le côté un peu officiel, ah là là, je m'inscris à une course et tout, alors que beaucoup préfèrent se faire leur truc dans leur coin et peut-être aimeraient faire une course mais n'osent pas, alors que faire une course, c'est simplement prendre le départ avec d'autres, mais on n'est pas obligé aussi de jouer le classement ou de jouer la performance à tout prix. Ça peut être... La performance pour soi, ça peut être aussi de simplement terminer dans les délais ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de démystifier un petit peu tout ce côté compétition, course, distance, faire 300 km, c'est important pour toi. Enfin, c'est important que tu l'aies fait. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre un peu?
Ah oui, bah oui, parce que enfin moi ce que j'ai envie de faire passer aussi comme message, c'est que on n'a pas forcément besoin d'être sportif de haut niveau. Enfin voilà, effectivement je fais beaucoup de sport, j'adore ça. Enfin voilà, je fais beaucoup d'entraînement par semaine, mais je suis pas surhumaine. Enfin j'ai une vie classique. Enfin voilà, donc il y a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour faire des choses comme ça. On n'est pas obligé de viser les premières places. Enfin voilà, on peut juste participer et se battre un peu contre soi-même. Et aussi que il faut surtout pas se brider. C'est qu'on a l'impression des fois que c'est des choses impossibles. Alors je dis pas que c'est facile. Effectivement, ça demande de l'entraînement, ça demande de la régularité, tout ça. Mais des fois on sous-estime un peu ce qu'on peut faire. C'est que faut surtout pas se brider. C'est qu'on a l'impression que c'est impossible, alors que finalement, en y allant petit à petit, on peut y arriver. Enfin, faut surtout pas se censurer. Voilà. C'est ça que je dis. C'est que quand on a quelque chose en tête, si on a envie de le faire, alors je dis pas que ça va être simple. C'est sûr que ça demande beaucoup de, ça demande du boulot. Mais on est capable de plus de choses que l'on pense, je pense, souvent. Il faut surtout pas se brider, faut pas se censurer. Donc c'est aussi ce que je veux montrer. Enfin voilà, quand je participe à des épreuves comme ça, c'est aussi montrer que voilà, moi qui suis pas, voilà, je suis pas une sportive de haut niveau, et pourtant j'arrive quand même à faire des choses qui me paraissaient largement impossibles il y a 10 ans.
Là où par contre je suis un petit peu fâché contre toi, c'est que je vois pas comment je peux conclure derrière ça. C'était tellement parfait que je vais me ridiculiser une fois de plus en disant autre chose. Donc, comme j'ai l'habitude de me ridiculiser et que ce n'est pas la première fois, je vais encore une fois te remercier et je vais te laisser pour ta minute de solitude, parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Je vais quitter la salle, la pièce, je vais poser mon micro, je vais le couper également, et toi tu dis ce que tu veux. Alors malheureusement, tu l'as déjà un petit peu dit, mais je pense que là, sur une minute, tu peux pousser un petit peu le message, tu peux en rajouter encore un petit peu.
Oui.
Et voilà, parce que c'est important de faire passer le message que on se bride souvent et que il serait bien de se faire un peu confiance ou d'être un petit peu plus inconscient des fois, de se préparer, mais d'oublier que ça va être dur, d'oublier qu'on ne l'a jamais fait, et puis simplement se jeter à l'eau. Comme le ferait un enfant qui se pose aucune question, et de foncer, et arrêter de réagir comme des, désolé pour l'expression, mais comme des cons d'adultes qui réfléchissent trop.
Ouais.
Voilà. Bon, allez, Géraldine, gros bisous. Je te réécris après sur Twitter parce que j'ai 2-3 trucs à te demander. Bravo, merci et à bientôt.
Ok. À bientôt. Bon, comme je disais, croyez en vous, surtout vous bridez pas, vous censurez pas, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, alors que ce soit dans le sport ou que ce soit un autre loisir, tentez. De toute façon, au pire, vous allez échouer. De toute façon, on apprend toujours de, voilà, on apprend toujours de tout, qu'on réussisse ou qu'on rate. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, enfin voilà, j'ai commencé le vélo il y a 10 ans vraiment par des voyages basiques. Enfin voilà, je connaissais pas du tout, je faisais des toutes petites distances. Et petit à petit, ça s'est construit parce qu'à chaque fois, je voulais toujours plus. Je voulais faire un peu plus. Et maintenant, je me retrouve à faire des choses qui me paraissent folles, que jamais j'aurais. Enfin, il y a 10 ans, si on m'avait dit que j'allais traverser la Suède, enfin que j'allais faire 2000 km en 9 jours, jamais j'aurais cru. Donc, croyez en vous, soyez un peu inconscient, enfin, quand il y a quelque chose qui...